Quand j'étais un petit peu plus jeune qu'aujourd'hui, donc il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais fan de Formule 1. Alors c'est moins le cas, j'ai juste moins le temps de regarder les Grands Prix. Mais dans les championnats de Formule 1, il y a plusieurs choses, plusieurs enjeux qui sont là. Il y a le championnat des constructeurs qui se joue. Comprenez par là, c'est les marques qui développent les moteurs de voitures et qui développent toute la voiture, en fait, et qui ont pour objectif de la rendre la plus performante, la plus puissante possible. Parce qu'à chaque fois que le pilote arrive sur le podium, l'écurie marque des points. Et il y a donc un championnat constructeur qui se joue. Et le désir pour cette marque, pour cette écurie, c'est de figurer parmi les meilleurs constructeurs parce qu'il s'ensuit tout un tas de conséquences pour la marque plutôt positives. Mais il y a plusieurs moteurs qui sont en jeu dans cette course. Il n'y a pas que le moteur de la voiture qui lui permet d'avancer. Les pilotes aussi ont un moteur pour rentrer dans cette compétition. Et bien sûr, ce moteur, ce qui les motive, comprenez par là ce qui les motive, il y a bien sûr très certainement l'adrénaline de la vitesse, un goût prononcé pour les hautes vitesses, plus de 300 km/h. Il y a très certainement l'argent qui sera décerné au vainqueur de chaque course, et puis bien sûr, à la fin, celui qui sera le grand vainqueur des 12 courses. Il y a peut-être le moteur de l'honneur, de la gloire, de la reconnaissance. Et peut-être que si on est honnête, et que si ces pilotes étaient honnêtes, c'est peut-être un mix de tout cela, en fin de compte. Et nous, quel est le moteur de nos vies et de ce que l'on entreprend dans nos vies? Qu'est-ce qui nous a motivés à sortir du lit ce matin? Le café? Le réveil? Qu'est-ce qui nous fait avancer dans notre vie? Qu'est-ce qui nous motive? Quel est le moteur de notre service pour Dieu? Il y a un moteur derrière tout ce que nous faisons. Si nous sommes honnêtes, nous agissons souvent, parfois, sous la pression de trois moteurs très puissants et combien épuisants. Il peut y avoir la culpabilité, peut-être que je veux me racheter de quelque chose qui s'est produit. Le moteur du regard des autres, que vont penser les autres de moi si je ne fais pas ça? Ou il peut y avoir aussi le moteur de l'intérêt personnel. Je fais cela en espérant le retour sur investissement. Alors que Dieu vient de faire alliance avec son peuple et qu'il donnait les instructions à Moïse pour construire cette tente qui permettrait à Dieu de venir vivre parmi son peuple, on a vu ça dans les chapitres 25 à 31, ce peuple se construit une idole, chapitre 32, et l'adore, le veau d'or. On a vu que cela constituait un adultère spirituel à l'égard de Dieu. La colère de Dieu contre cette idolâtrie s'est manifestée et finalement, une grande partie du peuple échappe de peu à l'extermination grâce à l'intercession de Moïse. Et on l'a vu là aussi, qui préfigure Christ, notre parfait médiateur. Le peuple doit son salut à Moïse, donc, mais surtout à Dieu lui-même. Et le chapitre 33 que vous avez vu la semaine dernière avec Mamie nous rappelle que c'est dans la nature même de Dieu de faire grâce. C'est ce qui le caractérise. Et je relis avec vous le chapitre 33, verset 19. Dieu dit à Moïse, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce. Et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Et au chapitre 34, ce Dieu plein de grâce plein de compassion, renouvelle son alliance avec le peuple. Aujourd'hui, on termine ce survol dans le livre de l'Exode avec ses chapitres 35 à 40, qui semblent encore une fois, en première lecture, très redondants avec les chapitres 25 à 31. Pourtant, quand on parcourt ces chapitres attentivement, on se rend compte que quelque chose a changé chez le peuple. Un mari infidèle qui est pardonné par son épouse et qui se voit offrir une seconde chance ne peut pas rester indifférent. Un condamné à mort qui se voit soudainement gracié ne peut pas rester indifférent. La grâce de Dieu ne peut pas nous laisser indifférents, ni nous, ni aucune personne qui en bénéficie. Elle est une puissance et une source de transformation. Et on va voir ensemble ce matin que ces chapitres révèlent trois caractéristiques d'un peuple qui a bénéficié de la grâce de Dieu. Si j'allume, ça va être mieux. Trois caractéristiques d'un peuple qui a bénéficié de la grâce de Dieu, et on va les découvrir ensemble. Et je vous invite à lire un petit extrait de Exode chapitre 35, les versets 4 à 29. Et bien sûr, on ne va pas lire les 29 versets, mais j'aimerais mettre le focus sur quelques éléments. Moïse dit à toute l'assemblée des Israélites, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prélevez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Toute personne dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et du bronze. » Verset 21. « Tous ceux qui étaient bien disposés et animés de bonne volonté vinrent apporter une offrande à l'Éternel pour les travaux de la tente de la rencontre, pour tout son service et pour tous les vêtements sacrés. Des hommes et des femmes vinrent, tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets en or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté se mirent elles-mêmes au filage et apportèrent le résultat de leur travail, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. » Verset 29, « Tous les Israélites, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par l'intermédiaire de Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. » Quelle est cette première caractéristique d'un peuple qui a reçu la grâce de Dieu ? J'ai entendu ? T'as dit quoi, Daniel ? Un cœur bien disposé, et donc la générosité. Et le contraste est juste frappant. Un peu plus tôt, quelques chapitres plus tôt, on voit ce peuple qui offrait son or pour construire une idole. Ici, il le donne généreusement pour l'œuvre de Dieu. Encore plus tôt dans le livre de l'Exode, chapitre 1, on voit ce peuple qui était forcé de travailler pour Pharaon. Et là, à la fin de l'Exode, on voit que ce peuple s'implique volontairement et librement pour Dieu. Et cette générosité du peuple est si débordante qu'il faut même demander au peuple d'arrêter de donner. Et on voit ça au chapitre 36, versets 4 à 7. Quelle transformation! Qu'est-ce qui nous motive à nous aujourd'hui à être généreux? Est-ce que nous agissons avec le moteur de la culpabilité? Qu'est-ce que Dieu va penser de moi si je ne donne pas? Est-ce que nous donnons par intérêt? Peut-être pour que Dieu nous bénisse en retour? Ou peut-être est-ce pour l'honneur, comme la personne qui se fait prendre en photo avec son gros chèque pour une fondation. La vraie générosité, selon Dieu, possède au moins 5 traits. Le premier, on voit qu'elle naît de la gratitude pour le pardon immérité que nous avons reçu. Le peuple avait un cœur bien disposé. Deuxième marque de cette générosité, elle est volontaire. On voit par un moment dans le récit qu'il est mentionné, le peuple était animé de bonne volonté, verset 21. Et Paul nous rappelle, dans le Nouveau Testament, ces deux premiers traits, dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Je vous lis, écoutez. « Que chacun donne comme il l'a décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Troisième caractéristique, elle n'est pas que financière. On voit ici que le peuple amène du matériel. On voit que le peuple donne de son temps. Il a fallu du temps pour concevoir tout cela, pour rassembler tous ces matériaux. Et bien sûr, on voit aussi que ce peuple met au service de Dieu ses compétences. Une générosité financière, matérielle, de temps et de compétences. Elle reconnaît que tout vient de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez d'où viennent ces richesses que le peuple possédait ? Ouais. Pareil, on le voit dans les débuts. Toutes ces richesses, en tout cas une bonne partie de ces richesses, proviennent des Égyptiens dont Dieu a incliné le cœur pour qu'ils donnent ses richesses au peuple en quittant l'Égypte. Cinquième marque de la générosité selon Dieu, elle est le reflet d'un Dieu qui est lui-même généreux. Et on voit encore ici dans ce texte combien dans sa grâce, Dieu est celui qui donne son esprit, qui qualifie des personnes pour les rendre aptes à construire ces éléments du tabernacle. Sommes-nous une église marquée par la générosité? Est-ce que nous sommes des personnes généreuses avec notre argent, avec nos biens, avec nos compétences et avec notre temps? Est-ce que mes collègues de travail ou mon supérieur hiérarchique voient chez moi quelqu'un de généreux dans ce que je mets au service de l'entreprise, et donc pour Dieu? Est-ce que mes voisins diraient que je suis quelqu'un de généreux dans mon implication pour mon quartier, et donc pour Dieu? Est-ce que des frères et sœurs de l'Église diraient que je suis généreux? Et on pourrait poser cette question vis-à-vis de son conjoint, sa conjointe. Est-ce que nos enfants diraient que nous sommes des parents généreux? Est-ce que nos amis d'école diraient qu'on est un copain ou une copine généreux, généreuse? Transformer chacun sait où se trouve le curseur dans sa vie. Si vous sentez le curseur plutôt du côté peu généreux, le but ce matin n'est pas de chercher à faire plus d'efforts, mais demandez-vous si vous avez suffisamment réalisé l'ampleur de la grâce reçue en Jésus-Christ. Si ce matin vous pensez que le curseur est plutôt du côté généreux, le but n'est sûrement pas de s'enorgueillir de cela, mais plutôt de sonder votre motivation, votre moteur. Est-ce que votre générosité se manifeste en conséquence de la grâce de Dieu? Ou est-ce que ce sont les moteurs de la culpabilité, de l'intérêt personnel ou du mérite qui sont à l'œuvre? Transformée par la grâce, l'Église, peuple de Dieu, devient de plus en plus généreuse. Deuxième chose qui caractérise ce peuple de Dieu. Mais avant, on pourrait se poser cette question. pourquoi est-ce que Moïse, l'auteur de ce livre, consacre 6 chapitres, chapitres 35 à 40, à répéter quasiment mot pour mot les instructions que Dieu a données dans les chapitres 25 à 31. Pourquoi est-ce qu'il passe 6 chapitres à répéter quasiment mot pour mot ce qu'on lit dans les chapitres 25 à 31 ? À nouveau, je vous invite à lire un tout petit extrait et vous allez vite voir à nouveau ce refrain qui est là. Avec les étoffes teintes en bleu, chapitre 39, verset 1. En pourpre et en cramoisi, on fit les vêtements pour le service dans le sanctuaire ainsi que les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 5. L'écharpe était du même matériau que l'éphod et fixée sur lui. Elle était en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On entoura des pierres d'onyx, de montures en or, et on y grava les noms des fils d'Israël, comme on grave les cachets. On les mit sur les bretelles de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. C'est mentionné 3 fois ici, sur les chapitres 39 et 40, c'est mentionné 18 fois, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Pourquoi cette insistance ? Pourquoi est-ce que Moïse n'a pas juste résumé ces 6 chapitres en une phrase, un verset ? Le peuple d'Israël construisit l'ensemble du tabernacle exactement comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Entre parenthèses, confère les chapitres 25 à 31. Merci Moïse. Et hop, une Bible raccourcie de 6 chapitres, fastidieux. Quelle est cette deuxième chose qui caractérise ce peuple de Dieu? Cette deuxième chose, c'est l'obéissance. Et là encore, le contraste est bien marqué. Quelques chapitres plus tôt, le peuple vient de désobéir complètement à Dieu en se fabriquant un veau d'or. Mais ici, on voit qu'un changement profond s'est produit dans le cœur du peuple. Il ne suit plus ses propres idées, mais il se conforme précisément à la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit ceci. Le peuple ne devait pas seulement être délivré de la captivité égyptienne, il avait aussi besoin d'être délivré de son cœur égyptien, c'est-à-dire d'un cœur naturellement rebelle à Dieu et désobéissant. Entre Exode 32 et Exode 35 à 40, que s'est-il passé ? Dieu a pardonné l'infidélité de son peuple. La grâce de Dieu transforme nos cœurs rebelles à lui en des cœurs désireux d'obéir. La grâce de Dieu ne supprime pas l'obéissance, mais elle la rend possible et désirable. Cette grâce de Dieu ne nous pousse jamais au laxisme, comprenez par là, à vivre comme bon nous semble. J'ai été pardonné, maintenant à moi la vie à croquer à pleines dents. Mais elle nous amène à considérer l'obéissance à Dieu, non pas comme une contrainte, même si cette obéissance est parfois coûteuse, mais comme la réponse d'un cœur profondément reconnaissant envers Dieu pour son pardon. Comme pour la générosité, la grâce est un puissant moteur à l'obéissance, bien plus puissant que la crainte, bien plus puissant que la culpabilité, bien plus puissant que l'intérêt personnel. Mais même si ici l'accent est mis sur l'obéissance du peuple, et on voit ça essentiellement dans le chapitre 39, on sait que la suite de l'histoire du peuple d'Israël ne nous montre pas un peuple qui sera toujours obéissant. Là encore, dans quel domaine de nos vies est-ce que nous avons tendance à vouloir négocier avec les instructions de Dieu ? Dans quel domaine de ma vie est-ce que le Seigneur renouvelle ce matin son appel à lui obéir concrètement, en ayant confiance que ce qu'il me demande dans sa parole est ce qu'il y a de meilleur ? Est-ce que ce matin, je lutte avec l'intégrité au travail parce que je fais quelque chose que tout le monde fait autour de moi? Est-ce que je lutte ce matin avec le pardon que je refuse d'accorder? Est-ce que j'ai du mal ce matin avec la soumission aux autorités? Est-ce que j'ai du mal ce matin avec la pureté et les relations sexuelles en dehors du cadre du mariage? Est-ce que j'ai du mal ce matin avec l'orgueil, avec la médisance? On pourrait continuer la liste. Chacun se place ce matin devant le Seigneur. Quand c'est le cas, quand le Saint-Esprit éclaire un domaine de notre vie que nous voulons encore garder sous contrôle, encore une fois, la solution n'est pas d'essayer plus fort de changer, mais de se rappeler à nouveau l'immense pardon de Dieu dont on bénéficie déjà. Et vous savez quoi? Si le chapitre 39 souligne l'obéissance du peuple, le chapitre 40 met le focus sur l'obéissance de Moïse, et on l'a déjà dit, on l'a déjà vu dans ce parcours. Moïse qui préfigure notre parfait médiateur, Jésus-Christ. Ce matin encore, si le Seigneur pointe un domaine de ma vie, je peux me rappeler que Dieu, dans sa grâce, a déjà mis sur mon compte, sur notre compte, l'obéissance parfaite de Jésus-Christ. Transformé par la grâce, l'Église est rendue capable de lui obéir. Troisième et dernière chose qui caractérise le peuple de Dieu. Je vous invite à lire les derniers versets de ce chapitre 40. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. À chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Est-ce que vous voyez à nouveau ce refrain qui ponctue ces quelques derniers versets du livre? Quelle est cette troisième chose qui caractérise le peuple de Dieu? La présence de Dieu. On arrive au dénouement du livre d'Exode. On arrive à son sommet et très certainement un autre de ses points culminants. Et là encore, il y a un contraste qui apparaît. Quelques chapitres plus tôt, l'épisode du veau d'or, à nouveau, Dieu est sur le point d'anéantir son peuple à cause de son idolâtrie. Et encore plus tôt, quand on remonte encore une fois au chapitre 1 du livre d'Exode, on voit un peuple qui gémit sous les coups des Égyptiens. Et la question sous-jacente, c'est l'absence apparente de Dieu. Où est Dieu dans la souffrance? Le livre maintenant se termine avec la présence de Dieu et sa gloire qui descend parmi son peuple. Le tabernacle atteint le but. Dieu habite parmi son peuple. Il me semble que de toutes les bénédictions que Dieu accorde à son peuple, la plus extraordinaire, c'est Dieu lui-même, dans toute sa gloire. Dieu continuera d'accompagner son peuple dans le tabernacle jusqu'à la terre promise, puis dans le temple à Jérusalem, jusqu'au livre d'Ézéchiel, où on va voir cette gloire quitter le temple. Mais cette présence de Dieu se manifestera plus tard en Jésus. Dieu fait homme qui vient vivre parmi les hommes pendant quelques années sur terre. Puis Dieu vient établir sa demeure par son esprit dans nos cœurs, dans le cœur de toute personne qui place sa confiance en Jésus-Christ pour son salut. Et enfin, quand on regarde vers ce qui n'y est pas encore, vers Apocalypse, nous avons vu aussi que le paradis, ce sera de vivre avec Dieu pour toujours. Est-ce que vous percevez ce fil rouge qui traverse toute la Bible ? Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Depuis la chute, donc depuis Genèse 3, on voit un Dieu qui met tout en œuvre pour que nous retrouvions ce pourquoi nous avons été créés. Le but du sacrifice de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, du pardon qui nous est offert par grâce, c'est que nous retrouvions cette communion avec Dieu. La présence de Dieu dans notre vie est notre plus grand privilège en tant que chrétien. Comme le peuple d'Israël, la vie chrétienne ressemble bien souvent à cette marche dans le désert. Dieu n'a jamais promis, il n'a jamais promis que nous échapperions systématiquement sur cette terre à la maladie, au deuil, à la souffrance, aux épreuves, sous quelque forme qu'elles soient. Mais il nous a promis une chose. Il nous a promis sa présence dès aujourd'hui. Et comme le peuple de Dieu, pour chaque étape de notre vie, y compris l'étape de la mort. David disait, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Même dans cette dernière étape de notre vie sur cette terre, Dieu sera là. Apprenons ce matin, apprenons à chérir cette communion avec Dieu, dès aujourd'hui par la prière, dès aujourd'hui par la lecture de la parole de Dieu, et par la communion comme ce matin avec nos frères et sœurs de l'Église. Délectons-nous, vraiment j'insiste sur ce mot, apprenons à nous délecter de ce que nous avons de plus cher, de plus beau, de plus précieux, cette relation avec nos créateurs. Transformés par la grâce de Dieu, l'Église, peuple de Dieu, devient de plus en plus généreuse et rendue capable de lui obéir et jouit dès aujourd'hui et pour toujours de la présence de Dieu. On a commencé par ce temps de célébration en chantant ce chant qui dit « J'aime ta présence ». Je vais juste nous laisser une ou deux minutes pour réfléchir encore et digérer ce qui vient d'être entendu. Après quoi, on va laisser les collégiens sortir et on va prendre un temps de louange et quelques chants qui soulignent ce qu'on a entendu ce matin. Et après quoi, que chacun se sente libre de faire monter à Dieu sa louange, de lire un passage peut-être qu'il a touché cette semaine dans son temps de communion avec Dieu, de prier.